Radio France Internationale, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec Arthur Ponchelet. À la une, ce matin, pas simplement une victoire, mais une démonstration.
Le PSG a terrassé l'Inter Milan hier à Munich. Victoire 5-0 dans un match à sens unique pour aller chercher le premier titre européen de l'histoire du club. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. Les mots de Tidiane Thiam, hier le patron du PDCI s'est exprimé à distance, alors que la coalition d'opposition Cap Côte d'Ivoire se réunissait à Abidjan. Dans ce journal aussi, un sit-in contre les féminicides à Dakar, le bras de fer qui n'en finit pas entre le Niger et la CNPC, compagnie pétrolière chinoise. Et puis, il faut sauver les puits du désert. Notre dossier ce matin consacré à une exposition sur ces puits que l'on trouve un peu partout en Tunisie, mais qui sont menacés d'ensablement.
Victoire écrasante, phénoménale, historique, pluie d'adjectifs ce matin dans la presse après la victoire du PSG en Ligue des Champions.
Les Parisiens ont tout donné sur le terrain. L'Inter Milan n'a eu aucune chance. Victoire 5-0. Jamais une finale européenne ne s'était soldée par un tel score. Le rouleau compresseur parisien a fonctionné avec notamment un doublé et une passe décisive de Désiré Doué. Autre gros joueur de ce match, Achraf Hakimi, le Marocain qui termine une saison exceptionnelle. Christophe Jousset en s'offrant le premier but de la rencontre.
Il a la bouche fermée, il a les bras levés, mais comme pour s'excuser. Et pourtant, à la 12e minute, Achraf Hakimi vient de mettre le PSG sur orbite en marquant le but qui annonce le festival offensif de son équipe. Par respect pour l'Inter, l'un de ses anciens clubs, il refuse de célébrer ce but. N'empêche, avec ou sans humilité, ce but fait entrer le Marocain dans l'histoire du foot africain. Car avant lui, peu de footballeurs du continent avaient marqué en finale de la Ligue des Champions et ce sont tous de grands joueurs. Eto'o, deux fois, Madjer, Drogba, Mané et Salah, quel cercle prestigieux. La saison se termine de manière triomphale pour ce défenseur devenu aussi un phénomène offensif. Il totalise 9 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Buteur notamment contre Aston Villa en quart de finale, contre Arsenal en demi-finale et donc aussi en finale. Désigné le mois dernier lauréat du prix Marc-Vivien Foé, le meilleur joueur africain de Ligue 1, Achraf Hakimi peut maintenant convoiter le trophée de la CAF qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. À 26 ans, le vice-capitaine du PSG est au sommet de sa carrière en club, en attendant la CAN au Maroc en décembre prochain.
Christophe Jousset du service des sports d'RFI, cette soirée historique est à revivre en images sur notre site RFI.fr. La suite du programme pour les joueurs du PSG, c'est une parade sur les Champs-Élysées, rien que ça, cet après-midi, avant une réception à l'Élysée avec Emmanuel Macron.
Plusieurs milliers de personnes réunies hier à Yopougon, en Côte d'Ivoire.
Rassemblement à l'appel de la Coalition pour l'alternance pacifique. Elle tenait son premier meeting, l'occasion de dérouler leurs revendications, toujours les mêmes, l'appel au dialogue politique et surtout la demande de révision de la liste électorale. Benoît Almeras, finalement, la seule surprise a été la participation à distance de Tidiane Thiam, alors que le chef du PDCI est absent de Côte d'Ivoire depuis 2 mois.
L'ancien patron de Crédit Suisse, très applaudi quand son visage s'est affiché sur les écrans géants.
Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous et j'espère qu'on m'entend.
En direct face caméra à Paris, Tidiane Thiam a tenté de galvaniser ses partisans à Yopougon.
Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, nous ne sommes pas des idiots.
Sur le fond, le propos ne varie pas.
C'est la volonté de tous les partis d'opposition réunis ici d'avoir en 2025 les conditions d'une élection apaisée. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. C'est une aspiration légitime.
Un message récurrent depuis que la justice a ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale fin avril. Simone Ivey, ancienne épouse de Laurent Gbagbo, a ainsi demandé au président Alassane Ouattara de faire réintégrer les dirigeants radiés en raison de leur condamnation pénale.
La loi ivoirienne a prévu qu'ils puissent prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie qui le fasse. Ça nous permettra de faire baisser la tension.
Le parti au pouvoir, le RHDP, lui juge que les partis d'opposition ne sont pas exclus de la présidentielle et peuvent y être représentés. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
L'opposition qui devait se rassembler aussi hier en Centrafrique, meeting finalement empêché. Des jeunes ont organisé un match de foot sur le terrain où devait se retrouver le bloc républicain pour la défense de la Constitution. Et puis, lui tenait un meeting hier à Paris. Maurice Kamto, l'opposant camerounais, a tenté de mobiliser la diaspora avant la présidentielle d'octobre, présidentielle pour laquelle le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé. Mais hier, les élites du RDPC, réunies à Boya, ont appelé à une candidature de Paul Biya.
On se rassemblait hier aussi au Sénégal, mais cette fois pour dénoncer les violences faites aux femmes.
Au moins 7 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ces derniers mois. Alors pour dire stop aux féminicides, plusieurs organisations féministes ont organisé un sit-in à Dakar. Reportage Biraïm Touré.
Le 5 janvier 2025, Yamou Ndiaye, tuée par son beau-frère à Touba.
C'est une liste de 7 filles et femmes tuées dans le cercle familial qui donne le ton de la manifestation. Sous un soleil de plomb, plusieurs dizaines de femmes, toutes de noir vêtues, ont répondu à l'appel des organisatrices. Devant un cercueil drapé d'un linceul blanc, Wassou Tunkara, présidente de Sénégal Action Féministe, s'indigne devant la recrudescence des cas de féminicide.
C'est cette femme ont été tuées dans un espace qu'elles pensaient être le plus sécure, c'est-à-dire chez elles, la famille. La famille aujourd'hui qui se trouve être l'espace le plus dangereux.
Une vingtaine d'organisations féministes ont signé un mémorandum. Dans le document, elles exigent, entre autres, la modification du code de la famille et l'application d'une loi spécifique contre les féminicides. Une démarche saluée par la députée d'opposition, Anta Babacar Ngom, qui dénonce le mutisme des autorités.
On n'a pas entendu assez de la part de nos autorités sur ces questions-là. Qu'on se choque et qu'on dénonce le fait que ce soit une situation anormale. Nous, élus, on doit continuer à porter la voix au sein de l'hémicycle.
Selon les organisations féministes, 196 cas de viol et meurtre ont été commis sur les femmes au Sénégal depuis janvier 2024. Biraïm Touré, Dakar, RFI.
La frontière entre le Bénin et le Niger restera fermée. Les mots du chef de l'agence nigérienne hier à la télévision. Le général Tiani a accusé son voisin d'être complice de la France qui, selon lui, veut déstabiliser son pays. Il est aussi revenu sur la crise avec la CNPC, la compagnie pétrolière chinoise. La Chine et ses sociétés jouent un jeu trouble au Niger, dit-il. Des mots alors que les travailleurs chinois en poste depuis plus de 4 ans avaient jusqu'à hier pour quitter le pays. Mais la situation est bloquée. Aucun technicien chinois n'est parti pour l'instant. Pour Benjamin Auger, spécialiste des questions pétrolières à l'IFRI, Pékin garde une marge de manœuvre dans les négociations.
La Chine peut attendre, la Chine a le temps, la junte n'a pas le temps. La grande différence entre la Chine et d'autres investisseurs, c'est que c'est des investissements globaux, c'est-à-dire qu'ils voient la totalité de leur coopération entre le Niger et eux, et ils peuvent se permettre d'avoir des crises, y compris des fermetures de raffineries s'il faut. L'acteur chinois dans le secteur pétrolier est actuellement irremplaçable. Donc c'est un bras de fer politique ce qui est en train de s'engager. C'est-à-dire que justement l'objectif c'est de faire en sorte que les Chinois payent davantage, fassent de nouveau des préfinancements, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent avant que l'argent soit dégagé par la vente d'hydrocarbures. Et l'objectif, c'est justement que la junte, qui a des difficultés à générer de l'argent par d'autres secteurs, fasse pression sur le seul acteur qui génère de l'argent, qui est donc la CNPC et le pétrole, en les menaçant justement de fermeture, qui est le seul moyen qu'ils ont sur eux pour essayer de les faire donner davantage de moyens financiers à la junte.
Le spécialiste des questions pétrolières à l'IFRI, Benjamin Auger, joint par Willy Diallo. Plus de 150 morts dans des inondations au Nigeria, bilan revu à la hausse et qui pourrait encore s'alourdir. Des pluies torrentielles ont submergé la ville de Mokwa dans le centre du pays. Plus de 3000 personnes ont été déplacées et des centaines de maisons détruites. L'actualité au Nigeria, c'est aussi cette bonne nouvelle sur le plan économique. Moody's relève d'un cran la note du pays. Elle passe à B3. Claire Fage, l'agence de notation américaine, salue l'amélioration de la situation financière du Nigeria dont l'économie se porte mieux.
Les récentes réformes monétaires ont permis d'améliorer la balance des paiements du Nigeria et de regonfler ses réserves de change, applaudit Moody's. L'inflation demeure élevée, mais elle montre des signes d'accalmie, poursuit l'agence de notation américaine, confiante en la poursuite des progrès sur le front des finances extérieures et du budget. Les réformes de dévaluation et la réduction des subventions sur l'énergie commencent à porter leurs fruits, s'est félicité le président Bola Tinubu cette semaine après 2 ans de mandat au cours desquels le le Nigeria a connu une de ses pires crises du coût de la vie. Il y a 3 semaines, la Banque mondiale avait de son côté salué la plus forte accélération de la croissance du Nigeria en 10 ans, 4,5% pour 2024. Elle mise sur 3,6% cette année et sur plus de stabilité monétaire. Avec l'amélioration de la note du pays, c'est désormais le coût de la dette nigériane qui devrait s'alléger grâce à la baisse des taux d'intérêt.
Claire Fage du service économie de RFI. C'est aussi pour améliorer la situation économique et créer des emplois que le Gabon interdit l'exportation de manganèse brut. Le sous-sol du pays regorge de ce métal utilisé notamment dans la fabrication d'alliages. Désormais, Libreville veut forcer les producteurs à transformer localement le manganèse. Ils ont 3 ans pour se mettre en conformité.
RFI 6h40 en temps universel. On passe à présent au dossier d'Afrique Matin qui nous emmène aujourd'hui en Tunisie.
À la découverte des puits du désert, ces puits qui se dressent au milieu de nulle part. Il y en a des centaines dans le pays, même si beaucoup ne sont plus utilisés, certains sont même ensablés. C'est pour mettre en lumière ces infrastructures qu'une exposition se tient en ce moment à Tunis. Reportage RFI, Lilia Blaise.
Immortalisé par les clichés de Mohamed Kilito, les puits du désert du sud tunisien, anciens et modernes, représentent les dernières traces de vie nomade. Hamed Kriwen est l'un des architectes ayant participé à ce projet de documentation et d'archivage.
Ces puits ne sont pas placés sur des routes, mais en fait, c'est eux les routes, ces points d'ancrage, ces points de repère pour les nomades. Ont créé en fait ces tracés et ces cheminements dans le désert.
Des puits dont le forage est difficile à dater pour beaucoup, mais recensés à près d'une centaine par ces architectes qui ont voulu aider à restaurer certains d'entre eux, comme l'explique Vanessa Lacaille, architecte.
En fait, il y a énormément de puits qui sont soit asséchés, soit ensablés. En fait, il y a peu de puits qui sont en fonction finalement.
Des puits non fonctionnels, mais encore utiles pour les populations sédentaires sur place, comme l'explique Mounir Ayoub, un autre architecte ayant participé au projet.
Et dès qu'on ramène de l'eau, en fait, il y a tout le vivant qui débarque et c'est vachement chouette pour un architecte, quoi. Parce qu'il y a les oiseaux qui débarquent très vite, il y a les dromadaires qui débarquent très vite, il y a les nomades, il y a toute une vie qui s'enchaîne.
Les ouvriers ont aussi construit une haie de feuilles de palme pour contrer le risque d'ensablement. Réunis au sein d'un collectif, les architectes veulent désormais trouver des fonds pour restaurer d'autres puits. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Alors comment ces puits du désert ont-ils évolué en Tunisie? De témoignages de l'activité humaine en milieu hostile, ils sont aujourd'hui à double tranchant, puisque les puits sont aussi un moyen de surexploiter les nappes phréatiques, alors même que l'eau vient à manquer. Zouer Khlaoui est enseignant-chercheur en géographie.
On a des traces d'habitat et même de présence humaine depuis l'ère très ancienne. Même si on remonte dans le temps, les premières manifestations religieuses, c'était à la région de Gafsa, où on a vu une accumulation des os et des pierres à côté d'une source d'eau. On a un nombre très important de puits qui sont utilisés et exploités jusqu'à maintenant. Et même, on a une surexploitation, surnombre de puits, ce qu'on appelle les puits illicites, puisque quand on n'a pas la possibilité de déréguer et d'exploiter les eaux superficielles, essentiellement exploitées par les barrages, donc on va vers les solutions des puits et l'exploitation des nappes phréatiques.
Propos recueillis par Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis, qui signe ce dossier à retrouver sur notre site RFI.fr. Un mot du Burkina Faso et de cette bonne nouvelle du côté du CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, l'hôpital qui a réussi pour la deuxième fois de son histoire une chirurgie reconstructive du sein. On en parle longuement dans le prochain journal d'ici 45 minutes, mais pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Marion Kazanov pour la suite des RFI Matin.
Merci beaucoup Arthur Ponchelet.